Installée sur la colline du Pincio, au-dessus de la place d'Espagne, la Villa Médicis est l'un des lieux les plus mythiques de la capitale italienne. Elle surplombe tout Rome, offrant une vue magnifique, ensoleillée le matin. Mais c'est aussi dans ce palais qu'ont séjourné depuis le début du XIXe siècle tant de grands noms de l'art français, Berlioz, Bizet, Carpo ou encore Debussy et Gounod. La villa est commencée au début du XVIe siècle par le cardinal Ricci. À sa mort, Ferdinand de Médicis s'en porte acquéreur et entreprend de grands travaux. Ainsi, concevant la villa comme un musée, il crée l'extraordinaire façade arrière en faisant encastrer des bas-reliefs antiques. Nous écoutons Didier Replin, architecte en chef des monuments de France, responsable des bâtiments français à Rome.
Le grand chef-d'œuvre, c'est la façade. En fait, Ferdinand était passionné d'art. Il a commencé par acheter une collection. Cette collection d'art, qui s'appelle la collection Capranica della Valle, qui était une famille. Et comme vous le voyez, ils avaient fait un patio. Et ils présentaient, c'était pour présenter les dernières acquisitions. Donc il invitait les gens à venir voir tout ce qu'il avait acheté. Ferdinand voit cette collection, il n'était pas très facile en affaires, il était jaloux comme un tigre, il fait des procès immédiatement, et hop, il achète toute la collection. Et il prend la collection, et il les met sur la façade, et il les met de façon parfaitement symétrique. Alors, cette collection était très rare, parce que vous aviez les plus beaux éléments de sculpture de l'époque, qui étaient les sculptures de Lara Pacis, l'hôtel d'Auguste, et Ferdinand n'était pas très regardant, quand une frise était trop longue, pof, il l'a coupée, il mettait l'autre bout à l'autre bout. Il a pris un peu de liberté dans les panneaux, donc c'est des devants de sarcophage, des pilastres de la Rapacis et des frises. Et ça donne cette composition-là qui est évidemment devenue extrêmement célèbre. Ce n'est pas réellement une façade, c'est un musée en plein air.
Dans les sous-sols, une citerne antique témoigne du passé prestigieux de la colline du Pincio, qui a notamment accueilli les palais de Lucullus et de Valerius Asiaticus.
Cette citerne, personne ne savait qu'elle existait. C'est un jour, un grand directeur, Balthus, le grand peintre Balthus, comme ça, il a demandé à quelqu'un de faire un trou, c'était là-haut. Donc il fait un trou, et puis on dit, il y a une cavité. Et puis il se penche, et là-dessus, ses lunettes tombent. Et il entend tomber, donc il dit, il y a une fosse, il y a quelque chose d'important, donc il faut réouvrir. Et il a fait réouvrir, et il a redécouvert toute la citerne. Et c'est la citerne antique, avec des vases de décantation sur les angles. L'eau arrivait, alors par des tuyaux, on ne connaît même pas encore tous les tuyaux qui arrivaient, c'était des sources de canalisation en terre cuite qui amenaient l'eau là. Elle descendait, elle se décantait, le dépôt était en bas et on recueillait l'eau pour boire par-dessus tout simplement.
Aux étages supérieurs, des salles de prestige, dont au centre, le somptueux grand salon.
Il n'y a jamais eu de décoration. Assez curieusement, il n'y a jamais eu de peinture alors qu'il y a des peintures partout. Ici, il n'y a pas eu de peinture. C'était comme ceci, nu. Il y avait simplement des superbes tapisseries pendues, une très belle cheminée à la Médicis. Et c'est des cheminées assez intéressantes, on ne peut rien mettre dessus. C'est-à-dire c'est une moulure qui est dans le mur, mais il n'y a jamais de garniture de cheminée. Un sol en terre cuite, ces sols romains qui sont sans aucun joint.
La fenêtre centrale de la pièce s'ouvre sur la capitale italienne. Son balcon accueille une fontaine.
La vasque antique qui est magnifique, les dauphins avec ses yeux d'albâtre, ils ont une expression, c'est des sculptures modernes pour l'époque.
Derrière le bâtiment, quelques 7 hectares de jardin sur la colline du Pincio.
C'est le seul jardin en Italie qui a conservé sa structure du 16e. Donc c'est là où il est assez rare. Rien n'a bougé depuis sa création. La composition est assez simple, 16 carrés, qu'on appelle les quadrati, qui sont posés sur un côté avec simplement bordé de haies et des allées qui mènent toutes soit à un pavillon, soit à une fontaine. Vous avez la zone des parterres qui est devant, où ça a pris tous les dessins. Il y a eu tous les dessins, ça a varié sans arrêt. Donc là, il y a un dessin qui est de Richard Peduzzi, d'ailleurs moderne. C'est un jardin très domestiqué, c'est un jardin d'architecture. Tout est tramé de façon extrêmement précise, non pas à partir de la villa, mais à partir de la galerie du Bosco qui est là derrière. Et la galerie du Bosco, avec son alternance de niches et de pilastres, est réglée sur une unité qui s'appelle la palme. La palme, c'est la paume de la main, c'est à peu près 22 cm. Et tout est réglé, les largeurs d'allées, c'est 15 palmes, d'autres c'est 23, et ainsi de suite. Il y a un véritable dessin complet de toute la villa ici, qui comprend également le Bosco. Ce qu'on appelle le Bosco, c'est la partie supérieure.
Au fond des jardins, sur la muraille aurélienne, se cache le studiolo de Ferdinand de Médicis. Un extraordinaire bijou couvert de fresques.
C'est le studiolo de Ferdinand de Médicis. C'est là où il venait travailler. Et il a demandé à son peintre favori, qui s'appelait Jacopo Zucchi, de lui peindre l'encyclopédie de la faune et de la flore qui était connue à cette époque-là. Cette peinture a été très célèbre pendant longtemps, mais elle avait disparu. On a redécouvert cette extraordinaire volière, puisque c'est vraiment une œuvre absolument magistrale. Vous voyez, toute sur fond clair, c'est une treille, et vous avez jusqu'en haut avec des raisins, et vous avez là, ici, toute l'encyclopédie de la faune et de la flore qui était connue. La représentation, ne serait-ce que des cerises ici, la façon dont les cerises sont attachées, il faut être devant l'arbre pour les mettre de façon aussi précise. Donc le botaniste était absolument remarquable. Le maïs est déjà arrivé, et il est tellement célèbre qu'on le met à la porte d'entrée. C'est un maïs mâle et un maïs femelle qu'on peint tout de suite. En revanche, le blé n'est pas connu, c'est encore de l'épeautre. Et pour les animaux, le dindon vient d'arriver des États-Unis, donc on représente le dindon. Donc ça nous permet de situer, c'est un herbier, si vous voulez, posé en voûte.
C'était Didier Replin, architecte en chef des bâtiments de France à Rome. La Villa Médicis ouvre ses portes pour des expositions temporaires. Et ses jardins se visitent au beau jour.